Vous écoutez
RMC.
Il est 7h et vous êtes bien sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et à 7h, c'est l'heure du journal de Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un sabotage et des heures de galère, Gare de l'Est. C'est toujours le cas ce matin. Seulement un TGV sur trois. Nous y retrouverons notre reporter RMC en direct. La menace d'une grève reconductible et la crainte d'un mois de février noir. Mois de vacances. Les cheminots se mobiliseront le 7 et le 8 contre la réforme des retraites. Et puis de la prison ferme requise dans le procès du papa accusé de s'être fait justice lui-même à Roanne après l'agression sexuelle de sa fille.
Et c'est toujours la galère ce matin, Gare de l'Est.
Les réparations prennent du temps après l'acte de sabotage d'hier. Un incendie volontaire dans un poste d'aiguillage. Des dizaines de câbles endommagés doivent être sécurisés. Une enquête est en cours. Marilyn Ottman, vous êtes en direct de la Gare de l'Est pour RMC. Encore peu de trains à l'affichage ce matin.
Oui, Marguerite, des trains sont bien affichés, mais c'est toujours la galère ce matin. Avec des trains soit en retard, soit déplacés pour partir d'une autre gare parisienne. Alors forcément, ça crée un peu de stress. Le train d'Awa vers Metz partira finalement de Gare de Lyon avec une heure de retard. Elle doit traverser Paris avec 5 valises. Ces galères, les voyageurs essayent de les anticiper. Il y a par exemple Abdel qui, lui, a réservé un deuxième billet direction Colmar alors que son train était bel et bien affiché ce matin. Alors pour un retour à la normale, la SNCF est toujours à pied d'œuvre. Plusieurs dizaines d'agents ultra spécialisés sont toujours mobilisés en ce moment à Vers-sur-Marne pour réparer les câbles brûlés hier. Et à l'heure où je vous parle, on ne sait pas du tout quand la situation serait rétablie, ni qui sont les auteurs de ces incendies. Parmi les hypothèses, un vol de câbles ou un éventuel acte de malveillance interne à la SNCF, parce que les auteurs connaissaient sûrement les lieux. Pas de traces d'effraction sur le portail d'accès aux câbles endommagés.
Marilyn Ottman en direct de la Gare de l'Est pour RMC. Si vous n'êtes pas fâché avec le train, sachez que les billets des ponts d'avril et de mai sont en vente depuis 6h ce matin sur le site de la SNCF. Avant cela, il y a le mois de février qui s'annonce compliqué avec la menace d'une grève reconductible, le tout pendant les vacances. La mobilisation contre la réforme des retraites se durcit. Chez les cheminots, la CGT et Sudrail appellent à des journées d'action en plus du 31 janvier, les 7 et 8 février, en même temps que les raffineries et le secteur de l'énergie. Victor Johannin pour RMC. Clairement, le bras de fer s'intensifie avec le gouvernement.
Oui, le succès de la journée du 19 janvier a donné des ailes aux syndicats qui se sentent poussés dans le dos par l'opinion publique. Voilà pourquoi la mobilisation commence à s'intensifier. La SNCF sera très mobilisée mardi prochain, mais la CGT Cheminot et Sudrail appellent aussi à une grève rectangle, une grève de 48 heures les 7 et 8 février. Ces syndicats qui représentent les deux tiers des conducteurs et des contrôleurs envisagent même une grève reconductible, c'est-à-dire potentiellement reconduite tous les jours à partir de la mi-février. La stratégie de montée en puissance des raffineurs séduit, puisque les fédérations CGT des ports et docks et de l'énergie les ont rejoints avec des appels à la grève demain, après-demain et pendant 3 jours à partir du 6 février.
Victor, est-ce qu'on se dirige vers une paralysie du pays ?
C'est ce qu'essayent de construire petit à petit les syndicats les plus offensifs, parce qu'ils pensent que le gouvernement ne reculera pas sans ça. Voilà pourquoi l'idée d'une grève reconductible à partir du 31 janvier est posée par la CGT dans l'éducation et la fonction publique. Mais il y a un grand écart entre le fantasme de la grève générale et les réalités du terrain dans un contexte de forte inflation. Il y a aussi la volonté de garder la CFDT à bord, la CFDT plus réticente à ce genre d'action. Les syndicats RATP, attentistes jusque-là, se réunissent ce matin. Force ouvrière a déjà appelé les salariés du transport à poser une heure de grève à chaque début de service pour désorganiser les entreprises à partir du 31 janvier.
Merci Victor. Dans le même temps, l'exécutif tente d'éteindre la polémique sur l'impact de la réforme des retraites sur les femmes, un peu pénalisées par le report de l'âge légal, comme l'a expliqué le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, lundi. Les oppositions dénoncent du coup un projet anti-femmes et le débat fait rage. C'était hier sur BFM TV, nous racontait Hélène Terzian du service politique d'RMC.
Oui, c'est une réforme qui est anti-femme.
Pour Mathilde Panot, la chef de file des Insoumis, les femmes sont les grandes perdantes de la réforme.
Vos 1200 euros que les gens ont compris qu'ils auront, il faut que ça soit à carrière complète, ce que souvent les femmes n'ont pas. Vous allez décaler l'âge. Il y a 200 000 femmes qu'on va obliger de travailler de 62 jusqu'à 64 ans pour avoir la carrière complète.
Un dialogue de sources engage, Olivier Véran défend au contraire une réforme qui les protège.
Factuellement, ce qu'on peut dire, c'est que 1. Les femmes continueront après la réforme de partir à la retraite avant les hommes. Vrai ou pas vrai ?
Non, c'est faux.
Ah bon, c'est faux. Alors ça, c'est un problème.
Mais c'est ce qui est marqué dans votre étude d'impact, en fait.
Attaqué sur les propos du ministre Franck Riester, qui a concédé que la réforme pénalisait un peu les femmes, le porte-parole du gouvernement répond.
On est tous alignés au gouvernement. Essayez pas de mettre des coins.
Trop tard, l'occasion est trop belle pour le patron du RN, Jordan Bardella.
Essayez pas de vous faire des pirouettes. Là, vous êtes très mal parce que vous vous dites « Mon collègue a dit une énorme connerie et on va devoir ramer sur les plateaux pour essayer de s'en sortir. » Même dans vos rangs, tout le monde est mal à l'aise avec cette réforme.
Contrairement à l'emploi des seniors, Olivier Véran n'a pas ouvert la porte à une évolution du texte sur la question des femmes.
Le gouvernement qui appelle les Français a demandé leur indemnité carburant 100 euros pour 10 millions de travailleurs modestes et seuls 3 millions ont fait les démarches au moment où les prix flambent à la pompe. On y revient dans votre journal de 8 heures. En attendant, il est 7h05 sur RMC. Jusqu'à 12 mois de prison ferme requis hier devant le tribunal correctionnel de Roanne. C'était le procès de ce père jugé pour avoir voulu se faire justice lui-même et tabasser avec trois amis un mineur qu'il soupçonnait d'agression sexuelle sur sa fille de 6 ans. Une audience que vous avez suivie pour RMC, Vincent Chevalier avec Romain Houg.
Quatre prévenus plutôt discrets, pas très bavards à la barre, hormis l'un des voisins qui dit avoir tenté de protéger l'agresseur présumé de la fureur du père. Lui le reconnaît, j'ai pété un câble sous le coup de l'émotion. Anne-Laure Lebert, son avocate.
On est très loin de l'expédition punitive, du règlement de compte, de miliciens, comme on a pu lire quand même dans le dossier.
L'avocate parle d'un acte de légitime défense et elle salue l'interpellation du mineur, certes très musclé, mais seul le père reconnaît les coups.
Quand on juge un homme, on doit juger ce qui l'anime. Et ce qui l'anime, à mon avis, dans ce contexte-là, doit pas permettre d'envisager d'emprisonnement ferme.
Contrairement au procureur qui a requis 18 mois de prison, dont 6 à 9 mois de sursis probatoire. Pour lui et la partie civile, aucun doute. Au moins 3 des 4 amis ont participé au passage à tabac.
On est sur vraiment une coaction et que le père a décidé d'endosser la responsabilité.
Camille Tinon, avocate du mineur isolé.
Pour moi, il n'y avait rien de flou dans ce dossier. Il est plutôt simple. Il peut être triste, il peut être compliqué moralement, mais il est plutôt simple dans les faits.
Le jugement est attendu le 7 mars prochain.
L'Allemagne est sur le point de donner son feu vert à la livraison de chars Léopard à l'Ukraine. Ce sont des chars lourds. L'Ukraine qui met la pression sur les Occidentaux pour faire face à l'avancée des troupes russes dans l'est du pays. Et puis, un autre coup de pression du président Volodymyr Zelensky qui demande à la France de refuser la présence d'athlètes russes pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Demande téléphonique formulée directement à Emmanuel Macron, Anthony Reich.
Les athlètes russes ne doivent pas avoir leur place au JO de Paris. C'est la demande claire du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Emmanuel Macron. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, aucun événement sportif international n'a été organisé ou soutenu en Russie ou en Biélorussie. Ces deux pays sont d'ailleurs exclus de toute compétition internationale et aucun symbole national de ces deux pays n'est affiché pendant un événement sportif. Dans son message du Nouvel An, Thomas Barr avait réaffirmé ce principe d'exclusion pour 2023. Pourtant, les lignes pourraient rapidement bouger car le président du Comité international olympique a lancé la semaine dernière une série de consultations autour d'un retour progressif aux compétitions en vue des Jeux de 2024.
Anthony Reich pour RMC.
C'était le journal de Marguerite Dumont, il est 7h08.
RMC s'engage pour vous.
RMC, à vos côtés, s'engage pour vous avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie.
Bonjour Pauline.
Amélie, il y a des chauffeurs VTC qui vous ont alerté sur un trafic organisé de cartes professionnelles, de fausses cartes VTC.
Oui, tout se passe sur la messagerie sécurisée Telegram sur les téléphones portables. La description de ce groupe de discussion est limpide. Obtenez votre carte VTC sans formation, validée en préfecture. Créé il y a 4 mois, ce groupe compte plus de 7600 membres. La mécanique est très bien huilée, des flyers colorés qui décrivent les offres. 1 500 € pour une carte de chauffeur VTC, 2 000 € pour le package all-inclusive avec création de compte Uber. Brahim Benali est secrétaire général de l'intersyndicale des VTC.
J'ai été dans un premier temps alerté par des chauffeurs qui ont utilisé ce réseau, donc ils ont testé et finalement ils sont revenus vers moi en me disant on peut obtenir un compte Uber facilement chez Bolt, chez Freenow, chez Hitch de cette manière par ce biais-là.
Voilà, il suffit d'un permis de conduire, d'une carte d'identité, d'un justificatif de domicile. Le réseau s'occupe de tout en 3 semaines contre 3 mois minimum par voie légale. Pas besoin non plus d'avoir un casier judiciaire vierge.
On parle d'un très gros réseau qui opère comme une vraie société. C'est bien organisé, c'est qu'il y a des témoignages de chauffeurs qui vous disent « j'ai eu le sésame, c'est incroyable ». Et c'est effrayant parce que finalement, ceux qui pouvaient pas obtenir ce fameux sésame parce que ils avaient des antécédents avec la justice, l'obtiennent par ce biais-là.
Si Brahim Benali nous a contactés, c'est pour dénoncer ces pratiques qui nuisent à la profession des chauffeurs VTC.
Alors Amélie, vous avez enquêté.
qui se cache, que se cache derrière ce réseau?
Pour le savoir, je me suis fait passer pour un aspirant chauffeur. Je suis allée sur le groupe Telegram en question et en un clic, j'ai contacté le vendeur. Écoutez.
Salut, j'espère que tu vas bien. Ouais, totalement, il reste de la place pour cette semaine. Donc là, ce qui serait bien dans un premier temps déjà, c'est que tu m'envoies tes documents afin que je puisse vérifier ton éligibilité pour voir si on peut éventuellement faire un dossier pour toi.
Le ton est amical, la suite se passe par écrit. Je dis que j'ai un casier judiciaire, le vendeur me rassure, il me dit on a plein de clients sous casier. Dans un échange avec un autre acheteur sur le groupe de discussion, il va plus loin. Le casier, c'est pas un souci pour notre contact qui bosse en CMA. CMA, c'est pour Chambre des métiers de l'artisanat. C'est ceux qui valident normalement les examens pour devenir chauffeur VTC, vous avez compris. Le vendeur laisse donc entendre qu'il a des complices au sein même de l'administration. Il nous a d'ailleurs assuré qu'il vend de vraies cartes délivrées par la préfecture.
Alors Amélie, vous avez alerté les autorités, qu'est-ce qu'elles vous ont répondu ?
Pour la Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France, impossible pour que le faussaire ait des complicités en interne. Il y a trop d'échelons de contrôle, nous dit-on. Côté ministère de l'Intérieur, on nous a renvoyé vers la police qui s'intéresse au sujet, mais qui n'avait pas d'éléments à nous communiquer pour le moment. Les plateformes VTC, elles, se défendent. Uber, Bolt, Freenow nous ont répondu. Ils assurent qu'ils contrôlent les cartes professionnelles et les permis de conduire, mais pas le casier du judiciaire et l'attestation de formation. Ça, ce sont les préfectures qui doivent le faire. Johanna Chabas a contacté les 24 dans lesquelles des cartes VTC ont été achetées frauduleusement. Aucune, à ce jour, ne nous a répondu.
Une enquête remarquable. Vous êtes vraiment glissée aussi dans toutes les interstices. Vous ne lâcherez pas l'affaire ?
Évidemment.
Pour essayer de comprendre, en effet, d'où vient la faille et puis surtout comment y mettre fin. Ce qui est assez sidérant, c'est la manière dont les autorités n'ont pas eu l'air tellement effrayées par ce que vous disiez. Alors, d'un point si de elles ne voulaient pas trop vous fouiller, quoi.
D'un point de vue, en tout cas, de l'enquête et de la police nationale, on nous a dit quand même que le sujet intéressait, donc on aura peut-être d'autres éléments dans les jours ou les semaines à venir.
Merci Amélie, et vous connaissez le chemin. Amélie, enquête derrière, c'est RMC pour vous, @rmc.fr. Il est 7h12.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Un panier anti-inflation à 20 € avec une dizaine de produits à l'intérieur. Eh bien, c'est l'initiative d'un commerce de proximité en Mayenne. Son patron est le témoin du jour et il nous explique tout dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC.
Le témoin RMC.
Le témoin RMC est épicier en Mayenne. Hugo Mock, c'est vous, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous tenez un petit commerce à Biernay-les-Villages et en fait, vous n'avez pas attendu que Bercy vous contacte ou que Bercy vous dise de faire un panier anti-inflation. On en parle depuis une semaine. Ils ont reçu hier à Bercy les représentants de la grande distribution. Eh bien vous, dans votre commerce à vous, vous avez décidé de créer ce panier anti-inflation pour lutter contre la vie chère. Si je vais dans votre boutique, concrètement, comment ça se passe ?
Alors, moi, j'ai créé 3 paniers anti-inflation.
Oui.
Un hygiène beauté, un alimentaire et un boucherie-charcuterie. Et tous ces lots sont au tarif de 20 €, un prix unique. Et dedans, j'ai mis environ 13 articles de consommation courante et que les gens ont besoin tous les mois et voilà pour leur utilisation personnelle. Et j'ai pas attendu justement les directives parce que moi le jour où ils vont venir dans mon épicerie
je serai
la dernière roue du carrosse. Donc je me suis dit moi j'ai des clients de proximité avec qui ça se passe très bien et qui ont des demandes tous les mois qui me disent ouais là ce mois-ci c'est difficile Hugo, est-ce que tu peux reporter au mois prochain? Donc il y a plein de choses, l'essence qui augmente, tout ça pour aller faire les courses. Donc je me suis dit, moi, à mon niveau, je pense que j'ai moyen de faire quelque chose.
Et comment vous y arrivez ? Alors, comment vous réussissez à faire ce panier, à tenir les prix, quoi ?
Alors, moi, j'ai envoyé mes listes de produits type à mes fournisseurs. J'ai négocié avec eux, je leur ai expliqué l'objectif que j'avais, que c'était pour créer des paniers anti-inflation. Donc, eux ont joué le jeu. Ils m'ont fait des offres de prix. Moi, j'ai tiré un peu sur mes marges. En regroupant les deux, ben finalement, je suis tombé à des paniers qui arrivaient aux alentours de 20 €. Donc, j'étais à 20,50, 21 €. Donc, j'ai arrondi à 20. Et voilà, donc j'ai réussi à mettre pas mal de produits.
Chapeau, non mais franchement chapeau, c'est-à-dire que en plus de se démener comme ça, quand on voit le temps que ça prend réunion, vous vous êtes dit allez j'y vais. Ce que je trouve fort, c'est que en fait vous êtes aussi aux avant-postes, c'est-à-dire que quand vous avez vos clients réguliers qui à un moment finissent par vous dire écoute Hugo, est-ce que tu peux reporter ça, lisser ça sur le mois prochain, que vous êtes obligé de faire crédit, enfin bon, vous rendez compte aussi des difficultés quotidiennes des gens, c'est-à-dire que voilà. Ouais, vous n'avez pas de marge, moi, vous, sur ce panier, du coup?
Comment?
Vous ne prenez pas de marge ou très peu sur ce panier?
Si, j'en ai un petit peu. Donc, c'est pour ça que je me dis, finalement, les grandes surfaces sont capables de le faire et il n'y a pas besoin de réfléchir des jours et des jours pour créer un panier comme ça. Donc, je me suis dit, si je le crée moi, ça va peut-être faire des émules derrière et peut-être qu'ils vont prendre conscience en se disant, ben oui, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Moi, j'ai juste négocié les tarifs, hein, donc...
Oui, vous avez fait votre boulot, en fait. Vous avez fait votre
voilà,
boulot,
boulot de commercial.
De commercial, et... d'épicier voilà. Qui négocie, voilà. Qui négocie les prix.
Voilà,
Hugo Mock, ils viennent de loin, du coup. Alors, j'imagine que les fidèles, ceux qui venaient déjà dans votre boutique, ouais. mais avec le bouche à oreille, les gens viennent de loin?
Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai des gens qui viennent de plus de 30 kilomètres, là, depuis que j'ai créé ces paniers-là. Moi, je suis beaucoup sur les réseaux, donc je draine un peu plus large.
Oui, on vous a vu, il faut le dire, quand même. Vous êtes pas seulement épicier à Biernay-les-Villages, vous êtes aussi sur TikTok.
Oui, je suis un peu partout.
Ouais.
Donc, moi, le but du jeu, c'est qu'on me connaisse et que j'attire les gens vers mon épicerie et que je fasse comprendre aux gens que finalement, un petit épicier, c'est pas seulement un gars qui est derrière son magasin pendant les heures d'ouverture, c'est qu'il y a du boulot derrière et que je travaille pour eux pour avoir des prix et pour essayer de les rassurer au niveau des tarifs, que je suis pas forcément bien plus cher qu'une grande surface.
Eh ben franchement, vous vous démenez quand on voit aussi les difficultés parfois des petits commerces.
Ouais.
Ben vous vous êtes dit allez, je vais remonter les manches et je vais trouver un moyen aussi.
Faut foncer.
Merci Hugo Mock, en tout cas. J'en profite. Hein, franchement, c'est le moment. Votre petit commerce, il est à Biernay-les-Villages. C'est en Mayenne. Vous êtes au cœur du triangle Laval, Le Mans, Angers. Que vous saluerez bien pour moi, parce que c'est quand même mon coin. 7h18. On va passer d'ailleurs tout à l'heure d'un épicier à l'autre, puisque à 8h30, notez-le, c'est Michel-Édouard Leclerc qui sera mon invité. Ce sera sur RMC et BFM TV. Je poserai évidemment les questions qu'Hugo Mock vous avez mis sur la table ce matin. Quand vous dites, moi, je peux le faire rapidement. Michel-Édouard Leclerc qui dit régulièrement en fait je suis un épicier, je reste un épicier. On verra s'il est capable de faire comme vous, Hugo. En tout cas, merci de votre témoignage. Il est 7h19.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Les stocks de médicaments sont à un niveau très bas.
Les doliprane sont en rupture.
Le manque de doliprane, les formules pour les enfants.
Les antibiotiques, rupture.
Il manque aujourd'hui 3000 références de médicaments dans les pharmacies. Dans 20 minutes, la réponse du président des laboratoires Merck, réponse à la pénurie. Il représente tous les laboratoires pharmaceutiques de France. Rendez-vous donc à 7h40. Et j'attends également vos témoignages. Vous manquez peut-être de médicaments essentiels pour vous, pour vos enfants. Dites-nous ce qu'il en est et venez l'interpeller directement. Donc, vous connaissez le chemin, c'est le 32-16. Et puis d'ici là, il y aura la chronique écho d'Emmanuel Le Chip et puis Arnaud Demange qui pirate le 32-16.
Apolline Matin.
L'indiscret RMC.
Il est 7h20 et c'est l'heure des indiscrets du service politique d'RMC avec Cyprien Prézril ce matin. Bonjour Cyprien.
Bonjour Apolline.
Vous nous racontez que la France Insoumise compte remettre la députée Rachel Keke sur le devant de la scène.
Oui, Rachel Keke, souvenez-vous, avant d'être députée, elle était femme de chambre et connue pour avoir mené une longue grève dans l'hôtel où elle travaillait. Et bien maintenant à l'Assemblée, elle vient d'être nommée chef de file sur les retraites, aux côtés notamment de François Ruffin ou de Mathilde Panot. Concrètement, elle va devoir ferrailler contre le gouvernement dans l'hémicycle, mais aussi dans la rue et dans la presse. Alors, elle s'y prépare, par exemple, plus de 3 heures de réunion hier pour travailler sur des amendements. Elle s'occupera des questions de pénibilité. Elle sait ce que c'est que d'être une femme de chambre qui se casse le dos à 64 ans. Elle parle avec ses tripes, loue par exemple une dirigeante insoumise.
Et c'est une manière pour elle de sortir de l'ombre.
Oui, c'est l'espoir en tout cas que formulent certains de ses collègues qui l'ont trouvée trop en retrait depuis qu'elle siège à l'Assemblée. Pourtant, pendant les législatives, son profil singulier en politique était particulièrement mis en avant comme le symbole de plus de représentativité des parlementaires. Mais depuis, quelques rares prises de parole et une polémique sur une visite à un détenu radicalisé. Bref, rien de très concret. Alors même si elle est appréciée, une députée insoumise reconnaît, elle n'est pas dans la vie du mouvement, personne n'est vraiment proche d'elle. Un socialiste y voit surtout la responsabilité des dirigeants insoumis et une forme d'instrumentalisation. Je cite, « Ils ne l'utilisent que lorsqu'ils ont besoin d'elle, comme un symbole et rien de plus. »
Et c'est pas faute de l'avoir invitée, je souhaite la recevoir, je leur ai dit depuis longtemps et j'espère que ça va se faire.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23, c'est l'heure de l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Tous les débats sur les retraites sont compliqués par une réalité, la mauvaise qualité de vie au travail.
Oui, en France, effectivement. Pénibilité, travail des seniors, carrière longue, derrière ces sujets clés de la réforme des retraites, une toile de fond. La France est le mauvais élève de l'Europe en matière de santé au travail. Les classements internationaux sont sans appel. Eurostat nous dit par exemple qu'en matière d'accidents du travail, la France arrive en avant-dernière position sur 27, avec un taux d'accident deux fois plus élevé que la moyenne européenne. La proportion d'actifs qui déclarent des problèmes de stress, de dépression ou d'anxiété liés au travail est là aussi plus élevée en France qu'ailleurs en Europe.
Et le management est remis en cause aussi, hein ?
Oui, effectivement, les pressions pour respecter les délais, les harcèlements et les brimades, les violences, les difficultés de communication avec la hiérarchie sont plus élevées qu'ailleurs. Trop peu d'efforts sont faits aussi en matière d'ergonomie des bureaux. Selon l'immobilier JLL, 43% des collaborateurs ne considèrent plus leur entreprise comme un endroit où il fait bon travailler. Tout ça sur fond de dégradation du médecine du travail. En 2005, il n'y avait que 13% des salariés qui attendaient plus de 2 ans pour une visite. C'est aujourd'hui plus de 30%.
Avec 2 ans pour une visite ?
Plus de 2 ans d'attente pour une visite, c'est 30%. Dialogue social compliqué aussi. La France est toujours première ou deuxième selon les classements du nombre de grève en Europe.
Sur les histoires de médecins, c'est d'autant plus compliqué et difficile qu'une partie de la réforme proposée par le gouvernement
repose sur la médecine
du travail. Si on doit attendre 2 ans pour avoir un rendez-vous, ça va pas marcher. La formation, enfin, est défaillante.
Et oui, sur le sujet du travail des seniors, c'est l'enjeu crucial. Et là, effectivement, les Français sont moins nombreux à bénéficier de la formation professionnelle que dans les autres pays développés, nous dit l'OCDE. 22e classé sur 32, avec 32% chaque année de salariés qui bénéficient d'une formation, 13% seulement chez les seniors.
7h25, c'est l'heure d'Arnaud Demange.
RMC, Apolline Matin.
Attention. Demange pirate le 32-16.
J'ai peur. Arnaud, bonjour. Ce qui fait réagir, vous l'avez vu au standard, c'est l'augmentation des arnaques SMS, les escroqueries aux vignères critères, aux faux colis, à la carte vitale.
Et oui, on a reçu des milliers de témoignages. Tenez, une certaine Gwenaëlle qui dit « Je me suis bien fait arnaquer, salaud, tu m'avais promis que tu m'épouserais et tout ce qui t'intéressait, en fait, c'était de me déglinguer. » Pardon Charles, ça c'est votre téléphone. Lisandro nous dit « Ça n'arrête pas. Hier encore, j'ai reçu un message. Vous êtes à découvert, merci de procéder à un versement bancaire. Mais moi, je suis pas naïf. Alors j'ai répondu, allez-vous faire foutre, sale voleur. Et là, la BNP m'a rappelé. Et donc, je cherche une autre banque. Et comme quoi, il faut se méfier. Et enfin, Fernande, 94 ans, de la Creuse, nous a dit.
Bonjour, j'ai reçu un SMS d'un escroc, vraisemblablement sénégalais et sans papier, opérant depuis un cybercafé d'Argenteuil, ce qui ne serait pas arrivé si nous avions voté correctement à la dernière élection, mais enfin bref, nous ne sommes pas ici pour faire de la politique. Cet Ivoirien m'a écrit « Votre véhicule n'est pas muni de la vignette critère, payez-la en cliquant sur ce lien ». Eh bien, je ne me suis pas fait avoir par ce Soudanais malhonnête. Déjà parce que je n'ai pas de véhicule, à part un déambulateur. Et surtout parce que j'ai une technique très efficace pour lutter contre les fraudes Internet. J'habite dans la Creuse. Donc, sans Internet. Et cet arnaqueur togolais en a donc été pour ses frais.
Quoi qu'il en soit, si vous repérez un arnaqueur, contactez RMC. S'engage pour vous.
Bien sûr.
Amélie, Élise, Johanna. C'est nos drôles de dames à nous. Elles résoudront tous vos problèmes. Et à tout à l'heure.
En fait, on devrait mettre cette musique à chaque fois qu'Amélie Rosic rentre dans ce studio.
Ah oui.
Je trouve que ce serait magnifique. Arnaud Demange, on vous retrouve tout à l'heure,
8h20. À tout à l'heure.
Il est 7h27. Dans un instant, la météo et le journal. Il est 7h30, vous êtes bien sûr à RMC, c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les manques de médicaments dans les pharmacies, ça ne s'arrange pas. En ce début d'année, plus de 3000 références en rupture ou sur le point de l'être. L'enquête qui continue à la SNCF au lendemain de l'incendie de câbles électriques qui perturbe encore le trafic ce matin, Gare de l'Est à Paris. Et la CGT qui met la pression dans la bataille des retraites avec des actions devant plusieurs permanences de députés hier soir dans le Sud-Ouest.
Et c'est toujours très compliqué ce matin de trouver certains médicaments.
Oui, si vous allez chez votre pharmacien avec une ordonnance, il y a peu de chances qu'il puisse tout vous donner. Il y a plus de 3000 médicaments en rupture ou en risque de rupture, c'est ce que nous disent les industriels. C'est deux fois plus que l'année dernière à la même époque. C'est toujours à cause des tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Ça touche les médicaments bien connus comme le Doliprane, mais aussi d'autres références indispensables à la vie de tous les jours, nous dit Martin Bourdin pour RMC.
De plus en plus souvent, derrière le comptoir de sa pharmacie, Thierry Varin ne trouve pas les mots pour accompagner certains clients à qui il ne peut pas fournir les traitements.
Là, je voyais hier le cas d'un diabétique pour une insuline. Il m'a dit, je sors de l'hôpital, vous ne me donnez pas de Treziba. J'ai fait un coma la semaine dernière, j'étais en réa et là, vous m'envoyez directement au cimetière.
De l'insuline, mais aussi des hormones de croissance pour enfants qu'il reçoit au compte-gouttes.
Et quand on demande des dépannages au laboratoire, les trois quarts du temps, ils n'honorent pas les dépannages.
Il y a aussi des tensions d'approvisionnement sur des anti-infectieux, des médicaments du système nerveux ou cardiovasculaire.
On envoie des mails, on téléphone, on relance. On galère vraiment pour obtenir des traitements complets.
Car ces traitements sont souvent vitaux pour les victimes de diabète. Par exemple, Jean-François Thébault est cardiologue et vice-président de la Fédération des diabétiques.
L'insulinothérapie, elle doit être absolument poursuivie. Bien entendu, s'il manque des médicaments, une insuline en particulier, ça pourrait être très dangereux pour le patient. On risque d'avoir une perte de chance d'un point de vue cardiovasculaire.
Pour limiter ces risques et éviter les pénuries, beaucoup de professionnels de santé appellent les industries pharmaceutiques à relocaliser la production de médicaments en Europe.
Et enfin, peut-être des réponses justement des laboratoires pharmaceutiques, puisque juste après le journal de Quentin, mon invité ce sera Thierry Hulot. Il est à la tête des laboratoires Merck et c'est également le représentant de l'organisation de tous les laboratoires pharmaceutiques de France. L'invité de 7h40 donc.
Il est 7h33 sur RMC. Et le trafic est encore perturbé ce matin. Gare de l'Est à Paris avec seulement un TGV sur trois. Toujours donc la conséquence de l'incendie d'une cinquantaine de câbles électriques à un poste d'aiguillage. C'était hier dans la nuit. Un acte de sabotage dénonce la SNCF qui a porté plainte. Une enquête est ouverte. Guillaume Bier, chef du service police-justice à RMC. Mais pour l'instant, on ne sait pas du tout qui est à l'origine de cette grosse pagaille.
C'est en pleine nuit que le ou les incendiaires ont pénétré sur ce site SNCF à Vers-sur-Marne, à une vingtaine de kilomètres de la gare de l'Est. En déplaçant deux dalles en béton, ils ont accédé à un premier coffret abritant d'importants câbles électriques, notamment de signalisation, qu'ils ont incendié vers 1h10 du matin. Même procédé sur un second coffret, accessible par un tunnel de l'autre côté des voies ferrées. Difficile de savoir par où se sont introduits et enfuis les auteurs. En tout cas, aucune trace d'effraction n'a été relevée sur le portillon d'accès, souligne le procureur, qui a saisi la police judiciaire. Pour l'instant, aucune piste n'est écartée, notamment celle d'une tentative de vol de câbles ou encore celle d'un éventuel acte de malveillance interne à la SNCF.
Tiens, je vous signale que la SNCF met en vente depuis 6 heures ce matin ses billets de train pour les ponts du mois d'avril et du mois de mai. La SNCF sur tous les fronts, puisque la CGT Cheminots et Sudrail, premier et troisième syndicat de la compagnie, rajoutent deux journées de mobilisation contre la réforme des retraites, les 7 et 8 février, en plus de la journée intersyndicale du 31 janvier, avec la menace d'une grève reconductible pendant les vacances d'hiver. En attendant, les actions continuent, cette fois dans le sud-ouest, avec hier soir, je vous le disais, des manifestations devant plusieurs permanences de députés de la majorité à Biarritz, Anglette et Pau. Pour maintenir la pression, reconnaît le patron de la CGT dans les Pyrénées-Atlantiques, Jérôme Cassin.
Ça va être amené à durer, on l'a déjà vu que le 19 c'était historique, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde dans les rues de Pau et Bayonne pour le département 64, donc maintenant on continue à travailler pour que le mouvement soit encore plus fort le 31. Il faut bien que les députés puissent entendre la contestation, et s'ils doivent représenter la population, il faut effectivement qu'ils ne votent pas cette loi.
Le gouvernement qui tente de mettre fin à la polémique sur les femmes un peu pénalisées par le report de l'âge légal. C'est ce qu'a avoué avant-hier le ministre chargé des relations avec le Parlement, Franck Riester, sèchement recalé à l'Assemblée d'ailleurs hier par la première ministre Elisabeth Borne, où on sent d'ailleurs à l'Assemblée tout l'embarras de la majorité. Écoutez Erwan Balanance, député breton du Modem.
Il y a un trou dans la raquette et il faut réparer ce trou dans la raquette. C'est toujours un peu gênant de se dire qu'il y a des petites imperfections dans un texte, mais il faut l'assumer, c'est le travail des parlementaires. C'est pas que le texte n'est pas satisfaisant, le texte est améliorable. On va porter avec le groupe démocrate des amendements pour que cette injustice ne soit pas dans le texte final. Mais ce que je veux dire, c'est que ça sert à ça, le débat parlementaire. Ça sert à corriger les imperfections d'un texte, à l'améliorer. Donc on va le faire avec détermination.
Il est 7h35 sur RMC et on reparle ce matin de Bernard Laporte, le patron débranché du rugby français, qui a passé une partie de sa journée hier en garde à vue, libéré sans poursuite dans la soirée pour une nouvelle affaire. Écoutez les précisions de Nicolas Pelletier pour RMC.
Après une bonne partie de la journée en garde à vue dans les locaux du service d'enquête judiciaire des finances, Bernard Laporte est ressorti libre hier soir dans cette enquête ouverte en août 2020 pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale aggravée. L'ancien sélectionneur du 15 de France ne fait pour l'instant pas l'objet de poursuites. C'est une affaire personnelle, explique des proches du dossier. En retrait de la fédération depuis la mi-décembre, ce nouvel épisode judiciaire tombe mal, très mal pour le dirigeant. Un mois après sa condamnation dans le procès Laporte-Altrade, une condamnation pour laquelle il a fait appel. Et surtout, cette garde à vue intervient en plein référendum à la Fédération française de rugby. Ce moment démocratique doit entériner jeudi soir la nomination d'un président délégué à la tête de la FFR.
On arrive aux choses sérieuses, au mondial de handball qui se déroule en Pologne avec la France invaincue jusque-là, qui jouera son quart de finale ce soir à 20h30 contre l'Allemagne. C'est la bascule, nous dit le sélectionneur Guillaume Gilles.
C'est un moment de bascule, ouais. Un moment essentiel, mais qui vaut pour les 8 protagonistes. Hein. Tout le monde rêve de la suite. Hein. Et quand on regarde la liste des prétendants, il n'y a que du beau linge. Hein. C'est un passage un peu étroit. C'est aussi le changement de mode. Quand on passe d'une compétition de poule où on a plusieurs matchs, où on sait que les faux pas sont rattrapables, là on passe en mode, ça gagne, ça continue, ça perd, c'est moins drôle.
Bon, et puis on ne s'ennuie jamais au Paris Saint-Germain en football. Message de Presnel Kimpembe sur les réseaux sociaux hier soir qui dément avoir été déclassé dans la hiérarchie des joueurs du PSG au moment où Kylian Mbappé vient d'être nommé vice-capitaine de l'équipe.
Le Quintet Quentin, c'est à Pau.
Oui, 13h50, RMC Découverte, vous en avez l'habitude. Le 3, le 13, les pronostics ce matin de la Dream Team sur RMC. Le 3 en favori, Baladin de Mesc. Le 13 en outsider, Inside Monteliu.
C'était le journal de Quentin Vinet, 7h37. C'est l'heure de féliciter Nicolas, parce que c'est Nicolas qui a gagné, je vous le signale. Nicolas, un gagnant toutes les heures. Et le gagnant 7h06, c'est Nicolas qui habite à Quincy, dans le Cher, et dont on va payer toutes les factures de l'hiver, puisque vous le savez, RMC défend votre pouvoir d'achat. On vous paye votre facture d'énergie pour l'hiver, on vous rembourse votre facture. Les autres gagnants seront tirés au sort toutes les heures. Il y en aura un tout à l'heure à 8h20 en direct avec moi. Et pour vous inscrire, eh bien vous envoyez facture au 73216. Facture au 73216. RMC est à vos côtés. Il est 7h38.
75 centimes par SMS. 2 SMS maxi.
RMC, 6h39.
Apolline Matin.
Le paracétamol, l'amoxicilline, les médicaments contre le cancer, le diabète, les rayons de pharmacie se vident. Bonjour Thierry Hulot.
Bonjour.
Vous êtes le patron des laboratoires Merck. Vous êtes aussi le représentant des laboratoires pharmaceutiques de France. Comment répondre à la pénurie de médicaments? La réponse avec vous, c'est dans un instant sur RMC. Et avec vous tous aussi au 32-16. J'attends vos témoignages.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC.
L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est vous, Thierry Hulot. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez deux casquettes. Vous êtes d'un côté le patron des laboratoires Merck en France. Et puis de l'autre, vous dirigez aussi l'organisation qui regroupe tous les labos pharmaceutiques de France. Cette organisation qui s'appelle LEM, c'est-à-dire les laboratoires du médicament. On l'a découvert. La France, dont on se disait que c'était un pays où on avait à peu près résolu les questions d'accès aux soins. On a longtemps été très fiers de notre système de soins. Mais aujourd'hui, outre la question des hôpitaux, la question des déserts médicaux, il y a aussi un problème de médicaments. Comment et pourquoi est-ce que des parents aujourd'hui qui ont des enfants malades doivent faire parfois jusqu'à 5 pharmacies pour trouver le traitement?
Alors, tout d'abord, cette situation, elle me révolte comme vous. Je suis grand-père, j'ai des petits-enfants, on est tous confrontés à la même situation. Il va falloir se mobiliser encore plus. Alors, laissez-moi prendre un instant pour vous dire le pourquoi sur la situation exceptionnelle que l'on rencontre aujourd'hui. On a eu un retour des pathologies hivernales très tôt, très fort, après Covid, plus fort que on ne l'avait anticipé. Personne n'avait anticipé une telle épidémie de bronchiolite, de rhume, de grippe hivernale. Et dans tout l'hémisphère nord, donc partout en Europe, en Amérique du Nord,
oui, c'est pas
il y a eu un besoin de traitement qui a absorbé tous les stocks qui étaient disponibles et tout ce qui avait été prévu en production pour l'hiver. Alors,
ok, donc ça c'est la demande, une demande très forte et peu prévue. D'accord.
Tout à fait.
Le problème, c'est pourquoi est-ce que les stocks sont limités et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les renouveler suffisamment vite?
Parce que le temps industriel est long. Si vous dites, dès les premiers signes, les industriels se sont mobilisés pour reproduire. On l'a vu, certains industriels ont annoncé des productions records. Quand on parle de paracétamol, il n'y en a jamais autant qui a été produit que l'an dernier. Quand on parle de l'amoxicilline, c'est la même chose.
Qui sont quand même deux médicaments extrêmement courants, hein,
extrêmement...
et qui manquent particulièrement pour ce qui est pédiatrique. C'est-à-dire que le doliprane enfant, l'amoxicilline enfant, qui est donc quand même l'antibiotique le plus donné, le plus prescrit, manque.
Tout à fait. Alors, immédiatement, dire, on va augmenter la production, on va rajouter des lignes de production, on va travailler...
Et vous l'avez fait, vraiment ?
Oui, ça a été fait, d'autant plus que sur l'amoxicilline, on a de la chance, c'est un produit qui est en grande partie produit en France. Donc on a plus de facilité d'action.
Oui, donc là, on ne peut pas imputer ça à des problèmes d'acheminement de la Chine ou de fermeture des usines en Chine. Alors, l'amoxicilline, oui, il est produit chez nous.
Oui et non. On voit derrière vous, en visuel, une tablette de comprimé avec le film alu et le film plastique qui protège le comprimé. Temps d'approvisionnement en film aluminium, il a doublé avec la conjoncture qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, on pense pas que le problème, c'est pas juste le comprimé, quoi.
Et non, c'est tous les ingrédients qui rentrent dans le comprimé. Beaucoup sont importés. Les délais d'acheminement ont augmenté. Le temps des appels d'offres.
Oui, mais si c'est ça le problème, on peut peut-être les mettre dans des petits sachets, comme aux États-Unis, où on vous les met dans un sachet papier, quoi.
Mais, dans ce cas-là, il faut changer la réglementation. C'est-à-dire, dans une situation exceptionnelle, il faudrait pouvoir être plus agile.
Est-ce que vous seriez prêt à changer votre mode de production, c'est-à-dire par exemple à passer, en effet, comme c'est le cas dans certains pays, hein, aux États-Unis, on vous prescrit un nombre de gélules, c'est-à-dire on vous prescrit pas des boîtes, on vous prescrit tant de gélules. Est-ce que ça, ce serait possible? Est-ce que ça pourrait être une des réponses?
Alors, oui et non, parce que en France, quelque chose est assez bien organisé. Généralement, dans une boîte de comprimés, vous avez le nombre de comprimés nécessaires pour votre traitement. Vous n'allez pas prendre un comprimé d'antibiotique dans le cas pédiatrique que vous citiez, mais quelques jours. Donc, la taille est correctement prévue. C'est comme ça que ça fonctionne en Europe. Ce que je disais, c'est le temps industriel, malheureusement, est un temps long. Se dire, entre le moment où on dit « il faut produire plus » et le moment où, sur les étagères des officines, le produit est disponible, ça prend quelques mois.
Le problème, c'est que là, on parle du Doliprane, c'est difficile, c'est compliqué, mais bon, faire 5 pharmacies, à la limite, c'est pénible, mais on le fait. Le problème, c'est qu'il y a des médicaments contre le diabète, il y a des médicaments anticancéreux. On a un pharmacien qui nous a dit, quand on nous demande des dépannages au laboratoire, les trois quarts du temps, ils n'honorent pas les dépannages face à des médicaments qui sont des médicaments vitaux.
C'est pour ça qu'il y a urgence à agir.
Alors, on agit comment ?
Il y a urgence à remettre en place en France un plan urgence pénurie, action pénurie.
On ne peut pas faire ça en France. On a l'impression que ça fait 6 mois qu'on en parle quand même. Et on en est toujours à dire il faut faire un plan d'urgence.
Non, il y a deux choses. Il y a agir dans la situation actuelle. Vous avez cité l'amoxicilline, vous avez cité le paracétamol pour régler le problème au plus vite. C'est agir dans l'urgence. Mais ensuite, il faut reconstruire les fondamentaux pour que ça ne se produise pas plus. Pour s'assurer que sur des molécules aussi essentielles, ça ne se produise pas à l'avenir. Et là, il faut tous se mettre autour de la table, pouvoir public, partie prenante, en fait, entreprise du médicament. Et excusez-moi, continuez. Nous, entreprise du médicament, ferons d'ici la fin mars des propositions extrêmement concrètes au gouvernement. La première, je pense, il faut être beaucoup plus agile. Dès qu'il y a des premiers signes de tension sur des molécules essentielles, il y a en France 12 000 présentations pharmaceutiques.
C'est quoi 12 000 présentations ? C'est 12 000
références. Types de boîtes différentes, d'accord. 12 000 références différentes. Il y en a probablement 300 qui sont vraiment essentielles et pour lesquelles il faudrait pouvoir être extrêmement agile.
À se dire, dès qu'il y a une sorte tension, de plan blanc, comme il y a pour les hôpitaux,
exactement,
qu'on n'aurait plus qu'à déclencher quand on se rend compte qu'il y a une pénurie possible. Je voudrais quand même parler prix, parce qu'on découvre aussi derrière qu'il y a... alors certes, ça touche toute l'Europe, comme vous le disiez, mais il y a quand même des grandes différences de prix selon les différents ministères de la Santé, selon la manière dont on rembourse. Et on a quand même l'impression, et je vais même dire les choses comme elles sont, quand j'ai préparé cette interview et que j'ai un peu travaillé la question de l'économie de la santé, je découvre de manière stupéfaite que le budget alloué aux médicaments en France n'est pas un budget qui serait déterminé en fonction des besoins, c'est-à-dire les médecins, les laboratoires se seraient mis autour de la table en disant voilà, en fonction des maladies les plus courantes et du volume de médicaments, voilà de combien est-ce qu'il faut qu'on ait en budget remboursé par la Sécu. Non, c'est le ministère dans son coin qui dit bah voilà, on va baisser le budget médicaments d'année en année. Il n'a fait que baisser ces dernières années. Et puis vous vous débrouillerez avec cette enveloppe globale qui est une enveloppe qui n'est donc pas déterminée par les besoins, mais par ce qu'on a encore dans la poche, quoi.
Tout à fait. Vous l'avez dit, on vote un budget. Et alors tout ce qui dépasse le budget, heureusement, on ne dit pas aux auditeurs, On a dépassé le budget, vous n'aurez pas de traitement. Non, on continue de fournir les traitements, mais l'industrie pharmaceutique rembourse 70% du dépassement du budget. Donc évidemment, ça tue les marges de manœuvre et le modèle économique de tout un tas d'entreprises. Alors on parlait des entreprises qui font ces traitements essentiels, indispensables. C'est des traitements à très bas prix.
L'amoxicilline, c'est 76 centimes d'euros, quoi, la boîte ?
Oui, le traitement. C'est moins qu'une baguette de pain. Et face à ça, vous avez l'augmentation des matières premières, vous trouvez des collaborateurs qui acceptent de travailler le week-end, qui acceptent de travailler la nuit, vous payez les heures supplémentaires, et on est la seule industrie où le prix est administré, vous ne pouvez pas répercuter le prix, l'inflation.
Mais il n'y a plus de modèle économique. Est-ce que ça veut dire, et je vous pose la question de manière très claire, Thierry Hulot, que si tout d'un coup le gouvernement vous disait, bon écoutez, l'amoxicilline c'était 76 centimes, on vous la paye 1 euro, on retrouverait un peu plus d'amoxicilline dans les pharmacies ?
Mais ça permettrait surtout à la moitié des entreprises...
Mais vous ne me répondez pas. Est-ce que oui ou non, vous metteriez plus ? C'est-à-dire, est-ce que quand même, si on voulait payer plus cher, vous en feriez plus ?
Mais ce n'est pas qu'on en ferait plus, c'est qu'on investirait plus, on aurait plus de chaînes de production, on aurait plus d'agilité pour aller vite, pour réagir en cas de tension. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'amoxicilline, demain, ce sera un autre traitement. Et puis d'avoir un budget du médicament qui soit 20-25% en dessous de la demande réelle, ça n'incite pas les innovations de demain à venir en France.
Et je précise d'ailleurs que l'Allemagne, où les médicaments en moyenne sont déjà remboursés 20 à 30% plus cher qu'en France, vient de décider pour un certain nombre de médicaments d'augmenter les prix de ces médicaments de 50%, pas forcément pour le patient, pas forcément pour le malade, mais pour l'État, pour le remboursement que l'État en donne.
Et Apolline de Malherbe, c'est là où je m'étonne ce matin. Au mois d'avril dernier, il y a plus de 9 mois, les entreprises du médicament ont présenté au gouvernement un plan d'urgence inflation médicaments. Nous n'avons toujours pas eu de réponse.
Vous n'avez toujours pas de réponse.
Nous n'avons toujours pas eu de réponse.
Je poserai la question au gouvernement et au ministre de la Santé la prochaine fois que je le recevrai. Merci Thierry Hulot, en tout cas, d'être venu exposer la situation ce matin sur RMC. Vous qui êtes donc patron des laboratoires Merck et qui représentez les laboratoires pharmaceutiques de France. Il est 7h50.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Est-ce que les femmes sont plus pénalisées que les hommes dans la réforme des retraites ? La question fait débat, même au sein du gouvernement. Les explications de Nicolas Poincaré pour tout comprendre, c'est dans un instant sur RMC.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. Le festival Rock en Seine a dévoilé une partie de sa programmation.
Ouais, Rock en Seine qui va fêter ses 20 ans cette année. Et pour l'occasion, le festival va proposer la seule date française en festival en 2023 de Billie Eilish. Apolline est fan et elle n'est pas la seule. La star planétaire, âgée d'à peine 21 ans, sera donc la principale tête d'affiche de Rock en Seine. Mais Rock en Seine va aussi miser sur des valeurs sûres, comme Placebo. On retrouvera aussi The Strokes à Rock en Seine. Les dates à cocher, c'est du 23 au 27 août prochain dans le parc de Saint-Cloud, comme d'habitude, près de Paris. Et l'objectif pour Rock en Seine, c'est de battre le record d'affluence de 2022 avec plus de 150 000 festivaliers. La billetterie ouvre tout à l'heure à midi.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h54 et c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas. Les femmes sont-elles les perdantes de la réforme des retraites ? C'est au fond ce qu'a laissé entendre Franck Riester, qui a dit, je cite, « Les femmes sont un peu pénalisées par le report de l'âge légal à 64 ans ». Ça ressemble à une énorme boulette, c'est quand même le ministre des Relations avec le Parlement, mais la question c'est, est-ce que c'est vrai ? Ou pas.
Eh bien oui, c'est indéniable, c'est vrai. Les femmes seront plus impactées que par la réforme. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles sont plus nombreuses que les hommes à avoir aujourd'hui suffisamment de trimestres cotisés pour pouvoir partir à 62 ans. Et cela, bien sûr, grâce aux 8 trimestres par enfant qui leur sont attribués. Elles seront donc plus nombreuses que les hommes à devoir travailler plus longtemps.
La réforme, elle prévoit pourtant que tout le monde va devoir travailler jusqu'à 64 ans, les femmes comme les hommes.
Oui, bien sûr, mais il faut comparer avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut partir à 62 ans, mais dans les faits, les Français et les Françaises partent plus tard, parce que souvent, ils n'ont pas assez de trimestres à 62 ans. L'âge moyen du départ aujourd'hui, c'est un tout petit peu moins de 63 ans. Avec la réforme, l'âge moyen à terme devrait atteindre 64 ans et demi, contre 64 ans s'il n'y avait pas eu de réforme, mais avec une forte disparité entre les hommes et les femmes. D'ici quelques années, l'effort demandé sera donc deux fois plus important pour les femmes que pour les hommes. Ce sera 8 mois pour les femmes, 4 pour les hommes. C'est pour cela que les ministres parlent donc d'un saut un peu plus grand, pour reprendre leur thème, ou des femmes qui sont un peu pénalisées. Et c'est pour ça que Mathilde Panot de la France Insoumise parlait, elle, hier soir sur BFM TV, d'une réforme anti-femme.
Le gouvernement y répond que les femmes verront leur retraite augmenter.
Oui, c'est par exemple ce que vous a dit hier Agnès Pannier-Runacher, qui était votre invitée. Elle disait les femmes vont gagner plus et c'est ça l'essentiel. Et effectivement, l'étude d'impact de la réforme qui vient d'être publiée par le gouvernement estime que la nouvelle loi va contribuer à réduire les écarts sur les pensions. C'est mécanique, puisque les femmes vont être amenées à cotiser plus longtemps, et bien forcément le montant de leur retraite augmentera en conséquence. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, affirme qu'à terme, la pension moyenne des femmes sera revalorisée de 2,2%. Alors que celle des hommes ne le sera que de 0,9%. Mais ça, c'est à long terme. Dans un premier temps, pour ceux qui vont partir dans les prochaines années, l'augmentation ne sera que de 1% pour les femmes et 0,2% pour les hommes.
Alors, pas de quoi vraiment réduire les écarts, hein ?
Non, parce que ces écarts, ils sont énormes. Les pensions moyennes des femmes sont 40% inférieures à celles des hommes parce que les femmes sont plus nombreuses à avoir eu des carrières hachées ou à avoir travaillé à temps partiel. La réforme va donc un peu corriger cette injustice, mais à la marge seulement. L'étude d'impact prévoit qu'à très long terme, l'écart devrait se réduire. On peut envisager un progrès significatif, c'est-à-dire que les hommes ne gagnent qu'un tout petit peu plus que les femmes, mais c'est prévu à l'horizon 2070.
Oui, donc c'est pas une boulette en fait.
C'est dans 50 ans.
Franck Riester.
Non.
C'est qu'il a juste dit les choses comme elles étaient et qu'évidemment ça les a mis un petit peu mal à l'aise. Les explications donc de Nicolas Poincaré à retrouver tous les matins sur RMC à 7h50 et en podcast sur l'appli RMC. Il est 7h57. Dans un instant, la météo et le journal de Marguerite Dumont avec à la une les cheminots qui se mobilisent contre la réforme des retraites.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.